Après le succès de L'Emprise, découvrez Quinquennat, le nouveau roman de Marc Dugain. L'histoire d'un homme qui ne vit que pour le pouvoir, qui manipule, orchestre, détruit. Mais que fera-t-il une fois le pouvoir suprême entre ses mains? Parce qu'en politique, il y a des vérités que seul un roman peut dévoiler. Lisez Quinquennat de Marc Dugain aux éditions Gallimard et retrouvez L'Emprise en folio.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Comme souvent, c'est un auditeur qui a suggéré à Franck Ferrand le thème de son émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Notre auditeur s'appelle Franck, lui aussi, et il souhaitait en effet nous entendre rouvrir le dossier Cesnec. Ça tombe bien, Denis Langlois, qui a été pendant 16 ans l'avocat de la famille Cesnec, vient de publier un ouvrage dont le titre est explicite « Pour en finir avec l'affaire Cesnec ». Je suis très content qu'il ait accepté d'être notre invité aujourd'hui.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Frédéric sur l'origine de l'expression « on n'est pas sorti de l'auberge ».
Mais je ne vois pas à quoi vous faites allusion, Ombline. En attendant, il n'est que temps de faire enfin la lumière sur cette célèbre, sur cette interminable affaire Cesnec.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
L'affaire Cesnec passionne des millions de gens depuis maintenant 90 ans et plus. Des milliers d'articles, des centaines de conférences, des dizaines de livres lui ont été consacrés et des films et des téléfilms. 9 décennies que la famille de Guillaume Cesnec, sa femme d'abord, puis sa fille, puis son petit-fils, auront essayé d'obtenir la réhabilitation de ce Breton condamné aux travaux forcés à perpétuité en 1924 pour faux usage de faux, certes, mais surtout pour assassinat. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tenter de débroussailler cette affaire touffue, controversée, une affaire dont tout le monde a entendu parler un jour ou l'autre, mais dont la plupart de nos contemporains ont oublié ou ignorent tout simplement les tenants et les aboutissants. Sachez d'abord qu'avant de devenir l'affaire Cesnec, ce dossier a été le dossier Quémeneur, du nom de ce conseiller général du Finistère, Pierre Quémeneur, dont la disparition au printemps 1923 a lancé toute l'affaire. Juste une parenthèse, au départ c'était Quémener, E-R. Seulement, comme la presse a pris d'emblée l'habitude d'écrire Neur, N-E-U-R, eh bien cette orthographe est entrée dans les mœurs. Ça vous donne une idée de la puissance des campagnes de presse sur le sujet. Alors, qui est ce Pierre Quémeneur? C'est un fils d'épicier de 6 ans. En 1923, il avait 45 ans. C'est un célibataire bon vivant. Il faut imaginer un petit bonhomme loquace, actif, avec le front dégarni et de belles bacchantes. Il s'est lancé avant la guerre dans le négoce du bois, où le moins qu'on puisse dire est qu'il a réussi. Il a acheté une vaste propriété qui s'appelle Traounez sur la commune de Plourivaux. On aura l'occasion d'y revenir, bien entendu. Et il est devenu le conseiller général local. Un homme donc qui fait des affaires, qui généralement est apprécié, eh bien c'est cet homme qui disparaît à la fin du mois de mai 1923. Il est parti de chez lui le 24 mai. Il a pris un train pour Rennes et il avait rendez-vous là avec un de ses amis, Guillaume Cesnec. Tous deux sont partis le lendemain à 5h30 en direction de Paris, avec une torpedo Cadillac. Depuis, la famille Quémeneur n'a pas revu M. Quémeneur. Le dimanche 10 juin, son frère et son beau-frère vont à Morlaix, chez Guillaume Cesnec. Alors, voici la version que Cesnec a donnée. Ils étaient donc en voyage en direction de Paris et là la voiture s'est mal comportée. Il y a eu panne sur panne. Il faut vous dire qu'ils partaient pour vendre la fameuse Cadillac, je vous en dirai plus tout à l'heure. Un petit peu après Dreux, le conseiller général qui désespérait d'être à l'heure à son rendez-vous du lendemain matin avec l'acheteur a décidé de faire demi-tour jusqu'à la gare pour aller prendre à Dreux donc le train de Paris. Et il aurait demandé à Cesnec de continuer de son côté en voiture jusqu'à Paris. Mais si l'auto ne marche pas, rentre à Morlaix la remettre en état, lui aurait dit Quémeneur. Je serai à l'hôtel de Normandie en face de la gare Saint-Lazare pour ma part. Donc, Seznec a poursuivi en direction de Paris. Et puis, découragé parce que la voiture vraiment n'en finissait de hoqueter, est rentré tant bien que mal jusqu'à Morlaix. Et c'est à ce moment-là que on a vu les trois hommes, donc le frère et le beau-frère, avec Seznec lui-même, se rendre à la brigade mobile de Rennes pour signaler la disparition de Monsieur Kemner, puisqu'il avait, on ne le voyait plus. Alors, pourquoi sont-ils allés à la brigade mobile de Rennes et non pas à Morlaix ou à Landerneau, où Kemner, du reste, possédait une villa? Sans doute pour éviter que la police locale ne s'intéresse de trop près aux affaires d'un homme qui est quand même conseiller général, qui vise la députation, etc. Sauf qu'à Rennes, on ne les prend pas très au sérieux. On se dit, oh, ben, un célibataire qui s'en va à Paris et qui sait vivre, hein, il est avec les petites femmes, on le retrouvera. Seznec rentre chez lui, les deux autres hommes vont à Paris et là, ils se mettent en quête de Kemner, bien entendu. Il n'est ni à l'hôtel de Normandie comme il l'aurait prétendu, ni dans ses lieux habituels. Le 13, plainte officielle est déposée. Or, ce même 13 juin, la sœur de Kemener reçoit un télégramme qui dit « Ne rentrerai à Landerneau que dans quelques jours. Tout va pour le mieux » et c'est signé Kemener. Seulement voilà, une semaine plus tard, le 20 juin, un employé de la gare du Havre va découvrir une valise jaune à la serrure fracturée. Il y a là-dedans, dans cette valise, du linge, etc., une serviette en cuir. Et dans la serviette, un cahier avec des dépenses dans lesquelles sont mentionnées les fameuses dépenses du voyage du 25 mai. Une promesse de vente, sur laquelle je reviendrai bien entendu. Et notons tout de suite que la valise porte des traces de sang humain. Le 22... Le parquet de Brest ouvre une instruction contre X. Le 26, Guillaume Seznec est entendu. Et le 29, il est inculpé du meurtre de M. Kemner. Et voilà comment cette affaire Kemner est en passe de devenir l'affaire Seznec. Alors, qui est-il, lui, ce Guillaume Seznec? Eh bien, lui aussi, en 1923, 45 ans. Mais il est, disons-le, pour le reste, un peu l'antithèse de Kemener. Lui n'est pas célibataire du tout. Il est marié, père de famille. C'est un solide paysan breton, né dans une famille d'agriculteurs, avec une réputation dont on peut dire qu'elle est moins flatteuse que celle du conseiller général. Il a tenu autrefois un magasin de cycles qui a brûlé en 1908. Or, à l'époque, il a touché la prime d'assurance, 30 000 francs en 1908. Ça fait beaucoup jaser, ça, bien entendu. Et d'autant plus qu'en 1922, la blanchisserie qu'il avait fondée depuis dans la banlieue de Brest, et qui ne travaillait qu'avec les armées françaises et alliées, peu importe, cette blanchisserie brûle à son tour et Seznec a touché une nouvelle prime de 23 000 francs cette fois. Depuis quelque temps, il est à Morlaix, il a ouvert une scierie. Donc vous comprenez qu'entre un exploitant de bois et le maître d'une scierie, évidemment, il y avait des liens et des intérêts communs. Dans quel but les deux hommes devaient-ils se rendre à Paris? Eh bien, c'est là qu'il faut, pour mieux comprendre toute l'affaire, rentrer un peu dans le contexte de l'époque.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Papillon de Franklin G. Schaffner, sorti en 1973, une musique signée Jerry Goldsmith. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur l'affaire Seznec.
Il faut bien comprendre qu'on est dans ce tout début des années 1920, donc au lendemain de la Grande Guerre. Les Américains ont laissé en France et notamment en Bretagne un énorme stock de matériel militaire et ce stock, il s'agit de le liquider. Donc on adjuge par lot, des commissions officielles ont été créées, dont Kemener fait partie du reste, et parmi le matériel, il y a des centaines, peut-être même en fait des milliers de voitures américaines. Or, parce qu'il est bien introduit dans toutes ses affaires, qu'Emmener, donc le conseiller général, a dégoté une filière pour vendre des Cadillacs, tenez-vous bien, à destination de la Russie soviétique. On est en 1923, hein, ce sont les tout débuts de l'URSS. Les soviétiques ont besoin de véhicules solides. Bref, Kemener possède justement une Cadillac que Seznec lui avait laissé en gage contre un prêt de 15 000 francs qui n'avait pas été remboursé. Donc au départ, cette Cadillac, c'était celle de Seznec. Il se dit que la Cadillac va pouvoir servir d'échantillon à montrer à un courtier, un certain Charlie ou Cherdy, dont à l'époque les enquêteurs vont mettre un temps fou à retrouver la trace. On sait qu'il s'appelait Gerdy, on l'appelait Charlie l'Américain, et c'est vrai que cet homme-là faisait du trafic avec les soviets. Évidemment, l'élu, si je puis dire, hein, le conseiller général, qui est soutenu par un parti chrétien, qui est meneur, ne peut pas traiter directement dans une affaire avec des représentants de l'Union soviétique. C'est Seznec qui fera l'intermédiaire. Et puis, il se trouve que c'est un bon chauffeur, accessoirement un mécanicien. Il connaît très bien la Cadillac, puisqu'après tout, c'était la sienne. Les voilà donc partis de Rennes ce 25 mai à 5h30 du matin. Vous comprenez d'où ça vient, ce voyage un peu inattendu. Alors, ils étaient partis très tôt le matin. On les a vus à Dreux vers 17h. Et au moment d'une crevaison, ils font halte dans un garage pour réparer un pneu. Seznec va se servir d'un cric. Ça, des témoins l'ont vu. Or, le cric, il disparaît par la suite. Et vous voyez déjà ce qu'on va dire. Et s'il s'agissait de l'arme du crime ? Devant le mauvais état de la voiture, impossible donc d'être à Paris dans la soirée, ils auraient fait demi-tour, ils seraient allés dîner à Dreux, dans un restaurant, et puis Seznec aurait conduit Kemener à la gare, l'y aurait déposé, et il aurait poursuivi lui-même jusqu'à la queue des Yvelines, où une nouvelle panne l'aurait un peu découragé. Il y avait de quoi, vous me direz, c'était la xème de la journée. Seznec a encore réparé, puis il a repris la route, mais cette fois en direction de Morlaix. Alors c'est quand même un peu étonnant cette histoire, puisque la queue des Yvelines, si je ne m'abuse, c'est à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Donc il était arrivé quasiment au but, et hop, il fait demi-tour et le voilà reparti à l'autre bout de la France, de l'Ouest, hein, à Morlaix. Dans la mesure où la personne disparue n'est pas du tout n'importe qui, c'est une personnalité politique, alors certes, personnalité politique modeste, mais tout de même. Et surtout dans la mesure où tout ça met en question des affaires de trafic de matériel américain, et qui plus est avec un pays très douteux, l'Union soviétique de l'époque. Bref, tout ça touche à des dossiers sensibles, et l'affaire ne va pas être traitée par des policiers classiques, si je puis dire, mais directement confiée à la Sûreté Générale à Paris, où Seznec va se trouver convoqué le 28 juin. Il faut imaginer le patron de l'enquête, hein, le commissaire Vidal, un bordelais, c'est moi qui prends l'accent bordelais pour dire ça, c'est amusant, un bordelais assez truculent. Il a pour adjoint un jeune inspecteur aux dents longues qui s'appelle Pierre Bonny. On va en reparler beaucoup de ce Bonny plus tard, rappelez-vous, c'est lui qui, dans l'affaire Stavisky, va prendre une telle importance, on l'appellera un jour le premier policier de France. Bref, Vidal et Bonny procèdent vite à une reconstitution des... Le 29 juin de cette année 1923, on va donc reconstituer tout le voyage avec les pannes, avec les crevaisons, etc. À Dreux, Seznec reconnaît la gare où il a déposé Kemener, nous dit-il. Kemener est monté dans un rapide pour Paris à 21h56. Et d'ailleurs, dans le carnet de compte qui a été retrouvé dans la fameuse valise, rappelez-vous, au Havre, cette valise tachée de sang, eh bien, on trouve effectivement un billet Dreux-Paris payé 11 francs 40. Bon, Seznec ne se rappelle pas l'endroit sur le trajet entre Dreux et Paris où ils ont fait exactement demi-tour. En revanche, il désigne à la queue des Yvelines le lieu de son ultime panne, le moment où là il se dit non, vraiment c'est pas possible, j'y arriverai jamais, et où il a décidé de regagner Morlaix. Encore une fois, drôle de décision hein, pour quelqu'un qui avait fait beaucoup de panne pendant toute la route. Le problème, c'est que à Houdan, des témoins vont se manifester spontanément, tout simplement parce qu'ils ont reconnu Seznec à son portrait publié dans les journaux. Et il s'avère que c'est à Houdan que les deux hommes se sont arrêtés pour dîner en ce fameux soir du 25 mai. Donc ils ne sont pas retournés à Dreux. Alors Seznec dit « Ah oui, peut-être, il reconnaît son erreur, il explique qu'il faisait nuit, qu'il était fatigué. » Bref, ils ont quitté le restaurant vers 22h. Sauf que quatre autres témoins, un cheminot, un facteur, le chef de gare et sa femme, ont assisté ce même soir du 25 mai à 22h à un accident, un petit accident, dans la cour de la gare. Cette cour était en cul-de-sac et souvent, les automobilistes, il faut vous dire qu'on est en 1923, hein, les routes sont très loin d'être ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, vous imaginez bien, et les automobilistes se trompent très souvent, ils prennent cette entrée de cour de gare pour l'accès de la route de Paris, et là, en l'occurrence, il semblerait que la voiture ait pas pu, la torpedo Cadillac n'ait pas freiné à temps, et qu'elle soit entrée dans une barrière de la cour. Et les témoins ont bien vu Kemener à côté de Seznec. Sauf que, disent-ils, il n'est pas descendu. Seznec fait machine arrière. Il s'empêtre hein, là dans son propre témoignage. Il propose plusieurs versions du départ du conseiller général pour la gare d'Oudan. Et puis, il perd à ce moment-là, on peut le dire, à force de revenir sur ses propres déclarations, il perd le peu de crédit que pouvaient lui accorder encore les enquêteurs. C'est très important ça pour la suite de l'enquête. C'est le soir de ce fatidique 29 juin que Guillaume Seznec, et ça n'est pas un hasard bien sûr, est inculpé officiellement du meurtre de son compagnon de voyage. Et à partir de là, les enquêteurs sous la poigne du terrible Bonny ne vont avoir de cesse de multiplier les charges contre leur suspect numéro 1. D'ailleurs, quand je dis le suspect numéro un, soyons honnêtes, le seul vrai suspect du dossier, ajoutons pour faire bonne mesure que les deux hommes ont été remarqués par des témoins à Saint-Lubin, donc en direction de Paris, et qu'à la queue des Yvelines, où Seznec, désormais seul à bord de la Cadillac, a été vu en panne, un témoin aurait remarqué une trace de sang sur un bidon d'essence vide. Et je vous rappelle que, par ailleurs, le fameux cric qui avait servi pour remplacer une roue, pour remplacer un pneu, enfin donc une roue, ce cric a disparu. Donc, les policiers pensent avoir trouvé la solution de l'affaire. Ils s'intéressent notamment à la promesse de vente qui a été retrouvée au Havre dans la valise. Kemener y promet de vendre à Seznec sa propriété forestière, hein, cette propriété de Traunaise qui fait quand même 90 hectares de forêt à Plourinot dans les côtes du Nord à l'époque. Il devait le lui vendre pour 35 000 francs alors qu'elle a été estimée à 100 000 francs et que Kemener avait dit qu'il en voulait 140 000 francs, c'est-à-dire 4 fois plus hein, tout simplement. C'est alors que Seznec, acculé par les enquêteurs, sort ce qu'il croit être une explication valable. Il avait déjà réglé 65 000 francs à Kemener sous la forme de 4040 dollars or. Ça, il lui avait donné, dit-il, en pièces d'or. Des pièces remises le 22 mai au café de l'hôtel des voyageurs à Brest. Problème, 300 pièces d'or. C'est pas une petite affaire, hein. Ça fait une très grosse boîte quand même. Et ça pèse non pas 500 grammes comme l'a déclaré à deux reprises Seznec, mais bel et bien 7 kilos. Personne, ni à Brest, ni à Landerneau à son retour, n'a vu Kemener avec une grosse boîte de 7 kilos. Ce serait pas passé inaperçu. Ajoutons que Seznec est alors endetté, qu'il est poursuivi par les huissiers, etc. Au total, tout ça fait, disons-le, beaucoup de charges et de présomptions qui pèsent sur Guillaume Seznec, dont la parole n'a vraiment plus de valeur aux yeux des instructeurs. Et le coup de grâce pour lui, ça va être l'affaire de la machine à écrire.
Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire.
Et au cœur de l'histoire d'un grand énigmatique dossier criminel du siècle dernier, Franck Ferrand, vous nous parlez de l'affaire Seznec.
En effet, vous savez, 1923, pas pour longtemps, ça va bientôt être l'époque de la radio, mais on est encore en plein dans la gloire de la presse écrite. Et c'est en lisant un journal qu'un marchand de machines à écrire du Havre va se manifester auprès des enquêteurs au début du mois de juillet. Il se trouve qu'il aurait vendu une machine d'occasion de type Royal à Seznec le 13 juin. Deux personnes présentes dans le magasin reconnaissent formellement Seznec. Je ne veux pas mettre mon grain de sel dans l'affaire, mais on peut dire que Seznec est facilement reconnaissable. Il a un physique qu'on reconnaît même de loin, pour tout vous dire. Coïncidence, ils ont fait une partie du voyage en train à ses côtés, les clients qui étaient dans le magasin. Or, le 13 juin, Le 13 juin, c'est le jour où un télégramme adressé à la sœur de Kemener a été dicté à la poste du Havre. Tout va pour le mieux, etc. Rappelez-vous, pour rassurer, tranquilliser la famille. Le jeune employé qui a enregistré ce télégramme décrit l'homme qui s'est présenté, grand, mince, avec des traces à la figure. Les traces en question, ça pourrait fort bien être les blessures de l'incendie de 1908 qui partout font reconnaître Sesnec, un peu trop facilement, diront certains. Il est facile à imiter d'une certaine manière. Le 6 juillet, une nouvelle perquisition est effectuée à l'atelier de Sesnec puisque la première n'avait rien donné. Sauf que cette fois-ci, on va découvrir la fameuse machine à écrire de marque royale. Les experts s'en emparent, ils l'examinent et ils l'authentifient. C'est bien celle qui a tapé, c'est bien celle sur laquelle a été tapée la promesse de vente. Personne ne s'étonne d'une telle coïncidence. Le juge d'instruction souligne que sur le document, la signature de Kemener est décalquée. Mais personne ne fait remarquer que la signature de Sesnec aussi est décalquée. Vous voyez, tout va dans un seul sens à partir de ce moment-là. Tout semble cousu de fil blanc, sauf que des recherches importantes dans toute la région de Houdan n'ont pas permis de retrouver le corps. Sauf que l'arme du crime elle-même demeure introuvable. Voilà donc un assassinat sans cadavre, un assassinat sans arme et un assassinat dont le principal, dont l'inculpé, disons, nie farouchement et en bloc à voir quoi que ce soit à voir avec l'affaire. C'est peut-être son erreur d'ailleurs d'avoir tout nié en bloc. Mais enfin, c'est ainsi. Quant aux preuves, elles sont ténues. Les enquêteurs, devant cette situation, vont se charger de les accumuler, les preuves. Quand je dis les enquêteurs, c'est Bonny dont il faut parler, bien entendu. C'est lui le sang bouillant de l'affaire. La presse colporte toutes sortes de bruits. On dénonce les manœuvres de la femme et des employés de Sesnec pour peser sur certains témoignages. On monte en épingle la tentative d'évasion de Sesnec à la prison de Brest. Et quand le procès s'ouvre le 26 octobre 1924, on peut dire que la France entière est convaincue de la culpabilité de Guillaume Sesnec et que le pays attend un verdict exemplaire. Il faut dire qu'il ne fait pas vraiment bonne figure, Sesnec. Son avocat, Maître Kahn, dira « J'ai regretté moi aussi de ne pas lire sur le visage de Sesnec la trace d'une émotion. Mais si vous saviez comme l'innocence se revêt quelquefois de maladresse, ne jugez jamais un homme sur son attitude. » Le 4 novembre 1924, à 1h du matin, le verdict est donc rendu. Après un ultime couac, dont on parlera peut-être, Guillaume Sesnec a tué, mais sans guet-apens ni préméditation. Comme il n'y a pas eu de guet-apens, comme il n'y a surtout pas de préméditation, il échappe à l'échafaud. Enfin, tout de même, il est condamné au bagne à vie, transféré d'abord à Saint-Martin-de-Ré, puis de là à la Guyane, où il ira en 1927. « Pas heureux, mon Guillaume, pars heureux, lui écrit sa femme, emporte mon cœur, ne t'abandonne jamais, je serai ferme jusqu'à la mort. Adieu, Marie-Jeanne. » Sa fille aînée va entrer au Carmel, à Jersey. Son autre fille, Jeanne, va épouser un des principaux témoins de la défense, François Leher. Ça aussi, on aura tout à l'heure l'occasion d'y revenir, parce qu'il y a quand même des témoins pour disculper Sesnec, des témoins de survie. Leher est receveur des tramways à Paris. Il dit qu'il a rencontré Kemener sur la plateforme de la voiture Passy Hôtel de Ville le 26 mai. Donc, il était en vie à ce moment-là. Vous voyez que l'affaire qui paraissait close, l'affaire qui s'était résolue par ce verdict implacable, l'affaire est en vérité encore en suspens. Eh bien, c'est étonnant à dire, mais plus de 90 ans plus tard, on peut dire qu'elle l'est encore. Bonjour Denis Langlois.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous connaissez cette affaire évidemment mieux que quiconque. Vous avez traité le dossier pendant des années et des années. Vous avez des doutes sur la question. Vous êtes très mesuré dans votre ouvrage et nous allons revenir avec vous sur les grandes conclusions qu'on peut en tirer.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
L'affaire Cézenec est au cœur de l'histoire cet après-midi et Franck Ferrand, vous recevez l'écrivain et ancien avocat de la famille de Guillaume Cézenec, Denis Langlois, auteur du livre « Pour en finir avec l'affaire Cézenec » paru aux éditions de La Différence.
Alors Denis Langlois, il y a tellement et tellement de choses à évoquer. D'abord, il faut dire que le dossier Cézenec est un dossier impressionnant. Physiquement, vous l'avez eu entre les mains, vous, si je puis dire, parce qu'il est immense. Hein.
Oui, lorsque je l'ai consulté, il faisait 1m50 de haut. Il était aux archives du Finistère et c'était quelque chose d'effectivement impressionnant.
Vous avez été le défenseur de la famille, il faut expliquer ça.
Oui, en 1976, j'étais un avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme. J'avais écrit des livres sur la prison, sur la justice, sur la police. Et la famille Cézenec s'est adressée à moi pour déposer une nouvelle demande en révision, la 13e, au nom de Jeanne Cézenec, qui était la fille de Guillaume Cézenec.
Combien y a-t-il eu en tout de demandes de révision du procès ?
14. Et il y a eu 14 rejets.
Voilà. Et alors, il se trouve que j'ai lu, moi, le tout dernier, celui qui a été rendu en 2010, c'est ça, le dernier ?
2006.
6, pardon, voilà, comme le temps passe. C'était un document qui faisait 40 pages, hein, extrêmement précis, pointu,
tout à
etc.
Fait, oui.
Qui était, d'un point de vue juridique, un peu un modèle, il faut dire. C'était écrit dans un style absolument implacable. Mm-hmm. On avait repris tous les aspects, toutes les questions posées par le dossier. C'est ça qui est étonnant, c'est que à l'époque, donc plus de 80 ans plus tard, on reprenne encore une fois la question pour savoir s'il y avait de nouvelles pièces, c'est ça, de nouveaux éléments. C'est ce que demande constamment la justice.
Oui, la loi avait changé. Pendant très longtemps, on a demandé pour réviser un procès des faits nouveaux de nature à établir l'innocence du condamné. Et en 1989, la loi a été modifiée. On ne demandait plus, si je puis dire, que des faits nouveaux de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
Voilà le mot peut-être le plus important et celui sur lequel vous insistez, vous, dans votre ouvrage, celui de doute. Car, que je sache, jusqu'à preuve du contraire, il importe dans un état de droit que le doute profite à l'inculpé, bien entendu.
Bien sûr, le doute aurait dû profiter à Cézenec en 1924 devant la cour d'assises de Quimper, parce que, vous l'avez dit, on ne savait pas exactement quand ou dans quelles conditions Quémeneur avait trouvé la mort. Mais l'ambiance était telle, la médiatisation allait dans le sens de la culpabilité et de la condamnation de Cézenec. Donc il était difficile qu'il y ait une autre décision, mais à ce moment-là, il aurait dû bénéficier du doute. Et aujourd'hui, je pense qu'il devrait y avoir révision. Et c'est le sens un peu du titre de mon livre, pour en finir avec l'affaire Cézenec, sur le plan judiciaire en tout cas, pas sur le plan historique.
Non, ça, bien sûr.
Je m'empresse de le dire. Et là aussi, le doute devrait bénéficier à Cézenec en ce qui concerne le meurtre. Pour les faux en écriture, je pense que Cézenec, contrairement un petit peu à ce que vous avez dit, mais on ne peut pas toujours entrer dans les détails, je pense que Cézenec a participé assez faux.
Voilà, alors justement, on va y venir là dans un instant. J'aurais voulu, mais on va garder ça pour la fin de l'émission, qu'on évoque bien sûr tout le travail que vous avez fait avec la famille Cézenec, tous les rebondissements, car pour tout vous dire, c'est la partie de votre livre qui m'a de loin le plus intéressé, parce que l'affaire Cézenec, je crois, sans être un spécialiste du tout, mais je crois la connaître à peu près, en tout cas à grands traits, alors que ça, c'est très intéressant, vous nous révélez toutes sortes de choses, on va y venir tout à l'heure. Revenons sur l'affaire elle-même, parce que nos auditeurs qui m'ont entendu à très grands traits résumer cette affaire sont en droit de se poser des questions, bien entendu. La première qui se pose quand même, qui est tout à fait incroyable, c'est cette histoire de confusion dans le témoignage de Guillaume Cézenec lorsque les enquêteurs, dès le début, lui demandent de reconstituer exactement son voyage aux côtés de Pierre Quémeneur. Il va changer d'avis un certain nombre de fois. Il ne sait même pas où ils ont dîné, où ils ont fait demi-tour, ce qu'il a fait lui-même. Et puis surtout, et permettez-moi de vous poser la question, quelle idée de faire demi-tour à 50 km de Paris, c'est-à-dire quand on est presque arrivé, alors qu'on est dans une voiture qui tombe constamment en panne?
Oui, la version qui est mise en avant par Cézenec est peu crédible. Et effectivement, les enquêteurs, le commissaire Vidal et son adjoint, son secrétaire Bonny, n'y croient pas. Et dès le début, il se lance dans une piste, une seule version, une seule hypothèse. Sesnec a tué Kemener dans la région de Houdan. Il a fait disparaître son corps en le jetant dans un étang ou en creusant un trou le long de la route. Et il n'y a pratiquement aucune recherche dans une autre direction.
C'est ça qui était un peu étonnant. C'est-à-dire que c'est, en gros, c'est tout l'un ou tout l'autre.
Oui.
Soit cet homme est totalement innocent, ce qu'il prétend lui-même, et qui a l'air quand même, on va y venir dans un tout petit instant, qui a l'air très peu crédible, ou bien il est définitivement le coupable du meurtre. Et si c'était entre les deux, et si la vérité était qu'il était coupable d'un certain nombre de mauvaises actions, mais pas du meurtre, ça se pourrait aussi.
Tout à fait, je pense que c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Mais les enquêteurs et ensuite le juge d'instruction ont dès le début leur idée faite et il n'y aura pas de recherche faite sur les lieux et notamment en Bretagne. Alors que pour moi, c'est sans doute en Bretagne que les choses se sont passées.
Alors où et pourquoi ? Dites-nous en quelques mots.
Alors moi, lorsque j'ai déposé la demande en révision, j'ai constaté qu'il y avait d'énormes affrontements au sein de la famille Sesnec. Vous en avez parlé un petit peu, mais ce n'est pas une famille unie dans la défense de Guillaume Sesnec lorsqu'il est au bagne et lorsqu'il revient. Les demandes en révision sont le fruit d'affrontements entre membres de la famille. Et moi, j'assiste à l'affrontement entre les deux des petits-fils de Sesnec, Bernard Leher et Denis Sesnec, qui plus tard deviendra Denis Sesnec. Et leur version est totalement différente. Bernard Leher me fait écouter un enregistrement qu'il a fait à l'insu de son oncle Guillaume, petit Guillaume, on l'appelait pour le différencier de son père, puisqu'il était le fils de Sesnec. Et petit Guillaume dit ceci en mai 1923, par un beau dimanche, je jouais dans la cour de la maison familiale à Morlaix, j'avais 11 ans à l'époque, et brusquement j'ai entendu les cris de ma mère qui venait de la fenêtre ouverte de la salle à manger. Elle disait « Non, laissez-moi tranquille Pierre, non pas vous, laissez-moi tranquille ou j'appelle ». Petit Guillaume s'approche de la fenêtre, se hisse sur le rebord en ciment et il aperçoit sur le sol de la salle à manger le corps recroquevillé de Kemener, un peu de sang coulant de son front. Et devant ce cadavre, sa mère, livide, qui ne sait absolument pas quoi faire. Et il en conclut, Petit Guillaume en conclut, que sa mère a repoussé, peut-être un peu violemment, un soupirant trop entreprenant, Pierre Kemener, et peut-être l'a aussi l'a frappé avec un chandelier qui est légèrement de travers sur la cheminée. Et il dit que par la suite, son père, Guillaume Sesnec, est arrivé, et, évidemment, lui aussi complètement catastrophé, décomposé, et il s'est écrié « on est ruiné, tout l'argent qu'on lui a donné, on n'en reverra pas la couleur ». Petit Guillaume ajoute qu'il croit savoir où le corps de Kemener a été enterré. Voilà le témoignage que je reçois au moment où je viens de déposer une demande en révision qui vise à faire reconnaître l'innocence totale de Sesnec. Mmh. Donc je suis énormément troublé, je ne sais pas très bien quoi faire.
C'est un récit de récit, hein, si je puis dire. C'est un oui-dire là quand même. On est dans c'est le témoignage de quelqu'un qui a entendu ça de son père qui lui-même était un enfant, c'est ce que je veux dire.
Pas tout à fait.
Non.
C'est un enregistrement de Petit Guillaume, donc un enregistrement.
Ah, c'est un
direct.
Enregistrement, pardon. Oui, c'est
oui.
Ça.
Donc j'écoute cet enregistrement. Bernard Leher me le confie pendant un certain temps, donc j'en fais la transcription. Et comme je vous le disais, je suis très partagé parce que je me rencontre avec les vérifications que je fais que c'est la version la plus vraisemblable, c'est celle qui entre le moins en contradiction avec les éléments du dossier. Peut-être qu'on pourrait dire la moins invraisemblable. Et cela introduit chez moi un doute supplémentaire. Disons que Je pense connaître ce qui s'est passé, mais je n'en suis pas certain, bien sûr, à 100%.
Mais comment, à partir de là, Guillaume Sesnec aurait-il pu faire croire à la vie de Pierre Kemner pendant tout ce voyage, avec tous ces témoins qui ont vu ces deux hommes côte à côte dans la torpedo Cadillac?
Non, ce serait... Kemener serait revenu en Bretagne. Au lieu de se rendre à Paris ou en passant par Paris, il serait revenu en Bretagne, il serait revenu à Morlaix. Et cela correspond d'ailleurs à l'un des témoignages qui n'a pas d'ailleurs été fouillé très loin. Un notaire de Landerneau qui dit avoir vu Kemener dans la salle des pas perdus de la gare de Rennes à un moment où effectivement il pouvait rentrer en Bretagne. Donc, si vous voulez, sans entrer dans les détails, moi je me suis rendu compte que...
C'est-à-dire qu'au lieu de partir pour Paris, il serait peut-être par le train rentré en Bretagne.
Oui, ou il serait passé par Paris et ensuite il aurait pris le train pour la Bretagne. Les vérifications que je fais à ce moment-là me montrent que c'est possible.
Eh bien voilà, qui apporte encore un nouvel éclairage sur une affaire qui était déjà passablement complexe.
Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire.
Cayenne, bonbon, j'ai compris. Cayenne, bonbon, c'est fini. Cayenne. Depuis le temps que j'attends ma remise de peine, y'a de la gangrène dans mes souvenirs.
Jacques Higelin sur Europe 1 avec Cayenne, c'est fini, extrait de son album Champagne pour tout le monde, paru en 1979. Vous vous intéressez cet après-midi, Franck Ferrand, à l'affaire Sesnec, votre invité, l'écrivain Denis Langlois, qui fut pendant 16 ans l'avocat de la famille de Guillaume Sesnec. Il est l'auteur du livre Pour en finir avec l'affaire Sesnec, paru aux éditions de La Différence.
Une petite allusion à la chanson de d'Higelin. Il est resté combien de temps à Cayenne, Guillaume Sesnec?
En Guyane pendant 20 ans, oui, plutôt, parce oui, qu'il a, mais... il a été transféré oui, dans plusieurs endroits. Pendant 20 ans, il est resté au bagne. Et ça a été quelque chose de terrible pour lui, d'autant plus qu'il était coupé de sa famille.
Il est rentré juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Ça a été un moment important, évidemment. Et là, l'affaire est redevenue une affaire majeure. On en a reparlé dans tous les journaux. Je voyais d'ailleurs, pour tout vous dire, dans les articles que je consultais pour la préparation de cette émission, beaucoup d'articles qui datent de cette époque, hein, des années 48, 49, 50. C'est la grande affaire, Sesnec. Hein.
Oui, on peut dire que dès le lendemain du procès, l'affaire Sesnec est devenue une affaire médiatique. Vous l'avez rappelé, il y a eu énormément d'articles, d'émissions. Et dans les années 1930, il y a eu un moment très fort. Et au retour du bagne, oui, Guillaume Sesnec est une vedette qui est accueillie par la population bretonne notamment.
Alors, nous avons laissé 2 minutes 30 à nos auditeurs pour digérer ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Denis Langlois. Revenons donc à cette affaire, si vous le voulez bien. Quand vous prenez la défense de la famille Sesnec, ce n'est pas sur les bases que vous venez de nous expliquer là.
Non, je dépose une demande en révision qui vise à faire reconnaître l'innocence totale de Sesnec. Pour des raisons d'ailleurs juridiques que je vous ai indiquées, c'est que la loi exige que l'on établisse par des faits nouveaux cette innocence.
À l'époque, oui, on n'est pas encore en 89.
Là. Non. Et je suis bien sûr que je suis troublé, je ne suis pas sûr que Sesnec soit totalement innocent. D'ailleurs, au début, quand je commence la consultation du dossier... il me semble évident qu'il est coupable. Puis, peu à peu, je découvre un certain nombre d'éléments qui vont introduire un doute très sérieux dans mon esprit.
Alors lesquels, par exemple, quels éléments?
Comme je vous l'ai dit, l'enquête est orientée dans une seule direction.
Ah, mais ça, c'est certain, oui.
Et il y a tout un tas d'autres pistes, des témoins qui ne sont pas entendus et qui pourra apporter quelque chose. Sesnec lui-même se défend très très mal. On a parlé d'un éventuel retour de Kemener en Bretagne. Lui n'évoque pas cela, alors que cela pourrait être intéressant, puisqu'il y a un témoin qui a vu Kemener dans la gare de Rennes. Donc lui accepte finalement ce qui aurait tendance à officialiser, en quelque sorte, confirmer la version que j'ai indiquée. Il n'a pas envie que les policiers cherchent en Bretagne et à Morlaix notamment.
Et ça, c'est parce que, et c'est l'aspect qu'il faut que nous développions maintenant, parce qu'on l'a fait très peu depuis le début de cette émission, c'est toute la notion de faux. Ce dossier est truffé de faux, disons-le.
Je dirais que c'est une enquête très fouillée, mais qui néglige tout un tas de pistes. Des faux, je ne suis pas sûr que ce soit le mot. Je dirais des négligences, une enquête qui est faussée par l'idée que le commissaire Vidal a dès le début. Je pense qu'aujourd'hui, on referait l'enquête, on trouverait tout un tas de choses. Mais il y a des historiens qui ont travaillé sur le dossier, il y a tout un tas de livres qui ont été écrits. Donc on en sait beaucoup plus sur l'affaire Sesnec qu'en 1923 et 1924.
Où l'on avait une vision totalement parcellaire. Mais qu'en est-il du fameux télégramme tout de même ? Ce télégramme que reçoit la sœur de Kemener.
Le télégramme est un faux, c'est pas Kemener qui a envoyé ce télégramme. Les experts, parce qu'il y a eu trois expertises en écriture successives, disent que c'est Sesnec qui l'a rédigé. Pour les faux en écriture, les experts aussi disent que c'est Sesnec qui en est l'auteur, ou du moins qui a participé.
Pour la promesse de vente ?
Oui, en apposant notamment sa signature, parce que sa signature, il la revendique dès le début. Il dit « c'est moi qui ai signé cette promesse de vente » et les experts confirment que c'est bien Sesnec qui a signé ces deux promesses de vente.
Donc là, il a participé à des choses qui sont quand même pour le moins douteuses.
Oui, moi je pense que effectivement la condamnation pour faux en écriture est justifiée. C'est la condamnation pour meurtre qui doit être révisée.
Mais c'est elle qui a conduit, disons-le clairement, c'est elle qui a conduit Guillaume Sesnec au bagne, bien entendu. C'est la condamnation pour meurtre.
Bien sûr.
C'est elle qui pose problème. Ça n'est pas celle pour faux et usage de faux, bien entendu.
Exactement, oui.
Alors, pour résumer votre point de vue, parce que nous arrivons au terme de cette courte émission, Denis Langlois, vous estimez que ce témoignage, donc de petit Guillaume, du fils de Guillaume Sesnec, peut être une piste très intéressante à creuser, et qu'il pourrait y avoir eu retour en Bretagne de Kemener, altercation avec l'épouse de Sesnec, mort que vous considéreriez dès lors comme accidentelle, dissimulation du cadavre et invention d'un certain nombre de faux pour récupérer des fonds investis. Est-ce qu'on peut résumer ça ainsi ?
Oui, je crois que vous avez très bien résumé. C'est l'hypothèse qui me semble la plus vraisemblable.
Et ça, c'est très différent de l'image que les uns et les autres véhiculent encore actuellement de l'affaire Sesnec. On est assez loin, bien entendu, de la version officielle et aussi de la version des défenseurs, disons-le. Ils ont l'intention de demander une 15e révision, les défenseurs de Sesnec, notamment son petit-fils Denis.
Je ne sais pas, ils en ont la possibilité puisque la loi a été à nouveau modifiée. Les petits-enfants et les arrière-petits-enfants
maintenant, oui,
n'en peuvent demander la révision. Donc c'est quelque chose de possible. Moi, je préférerais que ce soit les autorités judiciaires qui prennent l'initiative de rouvrir en quelque sorte le dossier et de voir ce qu'il en est exactement. Je fais plutôt appel aux gens de bonne volonté. Bon, depuis près d'un siècle, on a émis tout un tas d'hypothèses. Aujourd'hui, le temps est venu de dire, voilà, on va chercher la solution judiciaire la plus équitable, celle qui choquera le moins de gens. Parce que je me suis rendu compte qu'en Bretagne, les gens sont encore très troublés par cette affaire.
C'est ce que disent certains de nos auditeurs là, qui écrivent.
Oui, évidemment. Je crois qu'ils ont raison, je l'ai constaté.
Denis Langlois, pour en finir avec l'affaire Sesnec, c'est aux éditions de La Différence. Et vous aurez compris que ça n'est pas un livre écrit pour le plaisir et ce n'est pas un livre de circonstances.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1 et vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Frédéric sur l'origine de l'expression « on n'est pas sorti de l'auberge ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Frédéric aujourd'hui qu'il vous pose, Franck Ferrand, via la page Facebook de l'émission. Frédéric voudrait connaître l'origine de l'expression « on n'est pas sorti de l'auberge ».
À mon avis, c'est très simple. Je vais pouvoir répondre à Frédéric en moins d'une minute. C'est une expression argotique. Vous savez qu'en argot, l'auberge, tout simplement, c'est la prison. Et pour cause, hein, puisque, après tout, vous avez le vivre et le couvert en prison. Bon. Et la différence, c'est qu'on ne peut pas en sortir facilement. Alors, en argot, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça veut dire on reste en tôle, on n'est pas sorti de la prison. Sous-entendu, la situation va être longue, compliquée, etc. Voilà l'explication. Mais, évidemment, un certain nombre d'esprits éclairés ont voulu trouver une autre explication à l'origine de cette expression et ils la feraient remonter, ce qui d'ailleurs n'est pas avéré, hein, ils la feraient remonter à la monarchie de Juillet, à 1831, vous savez, à ce fameux drame de Père Beille. Rappelez-vous l'histoire des époux Martin, hein, Pierre Martin et Marie Bresse, qui tenaient cette petite auberge dans l'Ardèche. Alors ça a donné un merveilleux film avec Fernandel et Françoise Rosay, vous savez, j'adore cette scène de la confession de Françoise Rosay par Fernandel qui est en train tout simplement de tomber des nues, c'est magnifique. Bon, ces gens, ce couple d'aubergistes, avec leurs domestiques d'ailleurs, ont été accusés d'avoir détourné un certain nombre de diligences, d'avoir fait disparaître les voyageurs, de les avoir même donné à manger aux cochons. Enfin, vous voyez, c'était sympathique. Et ensuite, ils servaient le jambon fait avec les fameux cochons, ils le servaient aux autres voyageurs. Enfin bon, tout ça est assez sordide. On les a accusés quand même de plus de 50 meurtres. Ils ont tous les trois été condamnés à mort et guillotinés, bien entendu. Ça a fait un bruit considérable à l'époque. L'auberge rouge, c'est ainsi qu'on l'a surnommée, est devenue un lieu maudit. Et c'est de là que viendrait l'expression « on n'est pas sorti de l'auberge ». Vous me permettrez de préférer, pour ce qui me concerne, la version argotique de la chose.